étions arrivés, si je me souviens bien, à la question de l'inspiration et du choix. Alors je resitue pour que votre mémoire se rafraîchisse et que vous voyez bien l'importance de ce sujet. Je vous ai dit que toute la philosophie de l'activité artistique devait être pour nous, dans une philosophie réaliste, ce qui est premier dans l'ordre génétique, c'est-à-dire ce qui est, ce qui correspond au premier réveil le plus conscient d'intelligence. Parce que l'éveil d'une connaissance affective demeure toujours dans une très grande obscurité. L'amour de l'enfant pour sa mère, c'est quelque chose qui est sûrement plus radical et plus profond. Exactement comme la connaissance religieuse. La connaissance religieuse est sûrement encore plus radicale. Mais la conscience de la conscience religieuse, la conscience que nous pouvons en avoir, est peut-être moins radicale. C'est là où il y a tout un problème très difficile, qui sera un problème de critique du reste. Parce que ça ne peut pas être un problème descriptif. Mais au point de vue critique, ce serait très intéressant de préciser, dans la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes, qu'est-ce qui est premier génétiquement ? Pas uniquement psychologiquement, mais premier génétiquement au plan philosophique. Notre amour instinctif, notre amour naturel, disons, parce que c'est pas instinctif, notre amour naturel, qui est spirituel, il est instinctif en ce sens qu'il est premier. Vis-à-vis de l'autre, c'est sûrement l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère. Y a-t-il un amour naturel, radical, au plan religieux, sans que la connaissance soit précise? Très difficile à préciser, ça. Et c'est très important. Parce que dans une vision de l'homme, c'est important de préciser ce que représente cet appétit naturel à l'égard du transcendant. Vous savez, cette phrase de saint Thomas qui est toujours si difficile à comprendre, que la partie a un appétit dans le sens d'amour, une inclination plus profonde vis-à-vis du tout, que vis-à-vis d'elle-même. Dans l'ordre métaphysique, il est évident que dans la réalité, on est un être créé qui a un essai participé. On a donc un appétit naturel fondamental vis-à-vis de ce qui est source, même si nous ne le connaissons pas d'une manière explicite. Il y a un appétit naturel, il y a une inclination naturelle vers un absolu, vers le tout, autrement dit, vers la source de ce que je suis. Et en fond, ce serait ce premier amour religieux de la créature à l'égard du Créateur. Inconscient, hein. Je dis bien inconscient, mais comme un appétit naturel de la partie à l'égard du tout. Et alors à ce point de vue-là, cet amour serait plus fondamental que l'amour de l'enfant vis-à-vis de sa mère. La mère est source du corps et Dieu est source de notre âme. Au plan métaphysique, je puis l'établir. Et donc, je peux à partir de là dire qu'il y a un appétit plus fondamental vers la source de mon âme, puisque c'est l'âme qui actue le corps. Il y a donc un appétit plus fondamental de mon âme spirituelle vers Dieu, sans le connaître. La connaissance viendra bien après. Ici, je parle de l'appétit, et de l'appétit naturel. Il y a donc un appétit plus fondamental de l'âme humaine vis-à-vis de sa source que l'appétit naturel de l'enfant vis-à-vis de sa mère. Vous voyez ? Je ne peux pas le dire psychologiquement. Je ne peux le dire que métaphysiquement, dans une vision de sagesse. Ce serait dans une vision de sagesse qu'on peut dire ça. Et c'est toujours intéressant de se poser au moins le problème. Et l'expérience la plus explicite que nous avons, la première expérience la plus explicite, c'est de l'ordre du facere. C'est de l'ordre de la réalisation de quelque chose. Oui, nous aurions donc ces couches, si je fais une vision critique, comprenez bien, vision critique, c'est toujours pour légitimer et essayer de comprendre la place exacte de la philosophie de l'activité artistique. Je crois que c'est très important. C'est pour ça que je reviens souvent dessus, parce que je voudrais que vous en ayez un certain sens de la chose, que vous compreniez. Alors, je ne mets pas la créature comme à la manière de Freud, le ça. Je mets au contraire la nature humaine. C'est la nature humaine dans son état le premier, son état le plus primitif, dans son état en même temps le plus imparfait. Mais la nature humaine est là. L'enfant, quand il existe, il y a une nature humaine. Il y a donc une âme et un corps. Son âme spirituelle est créée par Dieu. Nous pouvons l'établir philosophiquement d'une manière ultime et dernière. C'est sûr, nous verrons, pas cette année-ci. Nous verrons, c'est important de savoir qu'on peut établir philosophiquement que l'âme humaine ne peut provenir que de Dieu. Déjà le vieil Aristote le disait. C'est pas à cause de la révélation, à cause de la philosophie, à cause de ce que c'est que l'esprit. L'esprit ne peut pas provenir de la matière. Donc il y a quelque chose qui provient de... Donc si l'âme, dans la nature humaine, et créé directement par Dieu, il y a donc nécessairement un appétit naturel. L'appétit naturel, c'est une inclination naturelle, c'est l'ordre profond de la forme vers ce qui est sa source. La source étant le tout, la partie, un appétit naturel vers le tout qui est fondamental. Et donc, cet appétit naturel vis-à-vis de cette source, ce tout, est premier, radicalement, je l'affirme, vous voyez, dans une perspective de sagesse et dans une perspective de réflexion dernière. Et à côté de cet appétit naturel, il y a cet second appétit naturel qui n'est pas premier. Qui est l'appétit de l'enfant à l'égard des parents, à l'égard de la mère. C'est un appétit naturel aussi, instinctif celui-là, parce qu'il est du côté du corps. Tandis que l'autre, c'est un appétit spirituel. Il est du côté de l'âme. Il est du côté de mon âme spirituelle. Et il y en a un qui est plus fondamental, puisque mon âme est plus fondamentale que mon corps. N'est-ce pas ? Puisque le corps est actué par l'âme. Alors, donc, c'est quelque chose de plus premier. Ensuite, donc ici, je suis dans les catacombes, si vous voulez. Au plan philosophique. Je suis dans quelque chose que je reconstruis. Très difficile de savoir ce que vous avez vécu en premier lieu. Très, très difficile. ce besoin de réminiscence, hein, de savoir ce qu'on a vécu en premier lieu. On ne sait plus, c'est complètement perdu. Et je ne crois pas du tout que la psychanalyse pourra. Parce que c'est un appétit naturel. On ne peut pas. Je cherche ici la première expérience consciente. Parfaitement consciente. Qui, de fait, s'enracine dans ces deux appétits fondamentaux, naturels, instinctifs et spirituels. Cette première expérience consciente, c'est celle de l'activité de réalisation. C'est-à-dire l'enfant qui commence à construire quelque chose. Piaget dit que le premier moment de la conscience, c'est dans le jeu. Le jeu à plusieurs. Hein. Comme c'est Genève, il dit que c'est à 14 ans. Voilà. Je crois que c'est beaucoup plus rapide que ça. L'activité, c'est intéressant, parce que là, on rejoint le point de vue psychologique, et là, il peut le dire, parce que c'est, je dis première expérience consciente. Si c'est le jeu, c'est évident que c'est du fatcheré. Le gosse qui construit, le gosse qui fait quelque chose. C'est de l'ordre, c'est pas de l'ordre moral. C'est de l'ordre d'une construction. Vous voyez, c'est important parce que ça fait comprendre comment ce fatcheré s'enracine bien dans un premier amour. Mais un premier amour qui n'est pas moral, qui est bien plus en radical qu'un aspect moral. Il n'y a pas conscience, il n'y a pas de liberté dans ces deux premiers. La liberté n'existe pas. Il n'y a pas de liberté, c'est instinctif, c'est l'ordre normal qui progressivement deviendra conscient. Et ce première expérience consciente, c'est cette activité de réalisation. Quand je fais quelque chose, l'œuvre, on résume, même si c'est une œuvre tout à fait élémentaire, c'est quand même une œuvre. Mettre un cube au-dessus d'un cube, hein. Faire un jeu, un petit carré dans lequel on va jouer, c'est le jeu, et c'est l'œuvre qu'on réalise. Alors, je crois qu'on peut dire, au plan philosophique, que c'est la première expérience consciente. Que ce n'est pas le point de vue de l'amour d'amitié, ce n'est pas non plus le devoir. Vous voyez, si je ne vois pas ces deux aspects très fondamentaux, ce serait dangereux. Parce qu'alors je pourrais dire, ce qu'il y a de premier génétiquement, vous voyez, c'est l'activité artistique, c'est donc génétiquement au sens absolu. C'est donc, tout est construit, tout l'édifice humain est donc construit sur le fatcheré. Je dis non. Le fatcheré est antérieur à l'agir, oui, génétiquement. Il est antérieur à la morale, c'est vrai. Mais le fatcheré est enraciné dans deux amours naturels, fondamentaux, qui ne sont pas liés. Qui sont quand même des appétits. C'est la seule manière de répondre à Freud, n'est-ce pas ? Et c'est important de saisir ça, de comprendre qu'il y a deux appétits naturels en toi. Et alors, à partir de là, va naître cette expérience de l'activité artistique. Le jeu et le travail. Et au point de départ, le jeu et le travail sont intimement liés. Aussi bien le travail qu'un jeu. C'est le sérieux avec lequel l'enfant joue. Très bien, c'est le travail. Il joue. Mais il travaille, il fait quelque chose. Il ne s'agit pas de venir le déranger. C'est quelque chose qui est lié. Ce sera qu'après qu'on pourra faire la distinction entre le jeu et le travail. Essayer de voir qu'est-ce que c'est que la détente, qu'est-ce que c'est que le travail.
Et comment le travail va appeler une détente. Et donc ce sera à partir du travail sérieux qu'on va établir un travail de détente, le jeu. Et la compétition rendra le jeu sérieux dans le travail. C'est très curieux le mélange entre les deux. Car il y a donc pas du sportif. Alors on voit très bien comment les deux se tiennent constamment et reviennent l'un à l'autre. Alors on peut faire des distinctions, parce que le travail lui-même est ordonné à une œuvre au sens fort, tandis que le jeu n'est pas ordonné à une œuvre. Il y a une espèce d'immanence beaucoup plus grande dans le jeu. Le jeu n'est... Tandis que le travail, lui, implique une œuvre, une réalisation, quelque chose d'extérieur. Dans le jeu, c'est pas ça, c'est quelque chose de différent à ce point de vue-là, parce que c'est beaucoup plus l'immanence. Alors, avec la compétition, il va intervenir quelque chose d'autre. La rivalité, les oppositions, et on voudra l'emporter. Mais en fond, c'est pas une œuvre qu'on fait. C'est quelque chose de très différent, c'est les règles de jeu qu'on respecte, et en vue de l'agilité, en vue de tout le point de vue particulier, au point de vue sportif. Bon. Alors, je pars de l'expérience du travail, du fait chéré. Nous avons essayé de comprendre toutes les dimensions du travail, en décrivant tous les moments du travail. Et nous essayons maintenant, après avoir vu tout le point de vue du travail, les différents moments du travail, de comprendre la source première du travail humain, non pas d'un travail codifié, systématisé, d'un travail qui est pris uniquement comme un travail en série, qui n'est plus vraiment un travail humain, mais le travail humain, dans sa source, va s'enraciner dans une certaine inspiration, pour mieux saisir ce que représente ce moment particulier d'inspiration. L'inspiration, ce n'est pas du tout là où j'ai ma source, mon expérience première. J'ai une expérience du travail plus profonde que de l'inspiration, ou au moins plus manifeste. Et c'est à partir du travail artistique, du travail de réalisation qui réalise une œuvre, que je pourrais dire qu'il y a un travail, quand il est pleinement humain, il implique une inspiration. C'est le rôle particulier de l'inspiration par rapport au travail. Ce qui est important ici, c'est de saisir comment, dans l'inspiration, je suis donc en présence d'un type de connaissance qui me semble, au point de vue proprement du développement de l'intelligence, qui me semble être le premier développement de l'intelligence, génétiquement. Parce que ici, l'intelligence n'est pas développée. Du côté de cet appétit naturel, l'intelligence n'est pas développée. Et dans le jeu, l'expérience de l'enfant, ordinairement l'enfant commence à jouer en imitant. Premier moment du jeu, c'est l'imitation. Qu'est-ce que c'est que l'imitation ? L'imitation remplace l'inspiration. Vous n'avez pas besoin d'être inspiré quand vous imitez. Vous savez, dans une procession, quand vous ne savez pas, vous les secondes, qui ont dit suivez. Et vous n'avez qu'à suivre. Donc, imitez. Tandis que le premier doit savoir. Donc, il doit être initié par l'inspiration. Autrement, il est impossible, il doit savoir. Tandis que l'autre n'a qu'à imiter. Vous entrez dedans. L'imitation. Mais l'enfant imite. Il y a une espèce de goût d'imitation extraordinaire. Parce que d'abord, c'est des grandes personnes, souvent, qui commencent à jouer avec lui. Et alors, il aime ça. Il n'y a pas de connaissance. Alors. Il y a un fait, il y a un travail, il y a du jeu, il y a une réalisation parfaitement, mais il n'y a pas encore une sourde indépendance. Donc il y a l'imitation. L'imitation est une chose très très importante en pédagogie. Très très important l'imitation. Il faut bien situer où se situe l'imitation, hein. Bien montrer où c'est l'imitation. Vous voyez que l'imitation va permettre le télescopage de l'inspiration. Quand vous êtes inspiré, vous n'aimez plus du tout d'imiter. Quand vous n'êtes pas inspiré, vous êtes très heureux d'imiter parce que ça vous tranquillise. Vous pas besoin de penser à ça. Je n'ai qu'à suivre. Je suis. Alors quand je suis, c'est vrai, je n'ai pas besoin de réfléchir. Tandis que dès qu'il y a inspiration, il y a source. Donc source d'autonomie. À l'égard du facere, à l'égard du fait. Vous avez donc, dans l'activité artistique, vous voyez, je n'ai pas assez dit ça. C'est ça que je reprends. Je n'ai pas assez montré qu'il peut y avoir dans l'activité artistique deux sources. Une source d'autonomie qui est l'inspiration et une source seconde qui est l'imitation. Vous voyez, dans le travail d'usine, c'est l'imitation. Vous regarderez votre voisin et vous ferez comme lui. Ah, il fait ça. Puis tout d'un coup, il y a quelque chose d'autre. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, quand l'imitation ne vient plus. Mais l'imitation supprime. Alors, imiter, c'est très bien dans une activité de réalisation imparfaite. L'activité de réalisation restera toujours imparfaite tant qu'on imite. Parce qu'à ce moment-là, vous comprenez qu'on ne fait qu'exécuter. C'est l'exécution pure, c'est tout. On n'a pas d'autonomie. Ça reste encore un travail humain, l'imitation peut rester humaine. L'homme peut être éternellement quelqu'un qui imite. Un enfant qui imite, c'est pas désagréable. Un homme mûr qui imite, c'est très désagréable. Et vous voyez tout de suite pourquoi? Parce qu'il manque de maturité. C'est l'enfant qui imite. C'est l'imparfait. C'est l'être imparfait qui imite. C'est l'être imparfait dans son activité de réalisation. Il imite. Alors, je peux très bien ensuite imiter, hein, quand vous apprenez à dessiner, quand vous apprenez toutes les choses, au point de départ, première phase d'imitation. C'est normal, parce qu'il n'y a pas d'inspiration. Alors, vous imitez. C'est lui qui, il se met à côté de quelqu'un, et lui est inspiré, c'est suffisant. Alors, si lui n'est pas inspiré, qui ne fait qu'imiter aussi, par mémoire, ça arrive. Hein. Alors vous voyez, ça fait des chaînes d'imitation où il n'y a jamais de ressourcement. Alors, on continue indéfiniment. Et quelquefois, triste à dire, mais alors ça devient la tradition. Oui. C'est plus une tradition vivante. Une tradition qui se matérialise. Une tradition vivante est toujours liée à l'inspiration. Tandis qu'au contraire, là, quand il y a l'imitation, ça se matérialise. L'imitation matérialise. Forcément. Et elle maintient dans la perfection. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'agaçant de voir quelqu'un qui devrait avoir une possibilité d'être source, de continuer d'imiter. Et d'accepter de continuer d'imiter. Parce qu'on peut très bien imiter dans certains domaines, dans ce domaine-là, comme vous, je suis novice, hein, on restera novice dans toujours certains domaines. Heureusement qu'il y aura des domaines dans lesquels on restera novice. Parce que si dans tous les domaines, on n'avait plus rien à apprendre, on plafonnerait, puis ce serait fini. Ce serait fini de la véritable expérience. Parce qu'on est beaucoup plus attentif quand on ne sait pas. À l'expérience. Mais quand vous savez trop bien et que vous êtes trop inspiré, vous ne faites plus aucune attention à l'expérience. Des gens très inspirés, très facilement marchent sur les pieds de leurs voisins. Très très facilement. Parce qu'ils sont inspirés.
Alors, ils n'ont plus du tout l'expérience. C'est curieux, le dosage. Hein? Et c'est important dans l'activité artistique de voir cela. La différence entre celui qui imite, parce qu'il n'a pas la connaissance, tandis que celui qui est inspiré, il est source. Et quand il est vraiment source et qu'il l'est pleinement, il n'a plus besoin d'expérience. Tout vient d'en haut. Tandis que l'expérience, tout vient d'en bas. C'est curieux de voir les deux aspects. Bon, ceci c'est simplement pour vous rappeler, quand je dis que la première expérience que nous avons c'est du travail, c'est ordinairement un travail qui est relié à une imitation et qui provient d'une imitation. Mais cette activité artistique, si elle devient parfaite, ne va plus être liée à une imitation, elle va être relié à une source, l'inspiration. Et à ce moment-là, l'activité artistique, le travail, deviendra parfait. Il n'est parfait que quand il acquiert cette dimension, que quand il a cette dimension d'autonomie. Parfaitement humain, comprenez bien. Parce qu'il peut y avoir, ça peut arriver, vous savez. Il peut arriver que des gens qui imitent arrivent à faire un travail beaucoup plus parfait que des gens qui n'imitent pas. Ce que disait Jean Vanier à propos des différents congrès qu'il avait assisté à propos des handicapés. Alors certains disaient, ne développons pas les handicapés, apprenons aux handicapés un seul mouvement pour le travail. Ils le feront mieux que les autres. Parce qu'ils ne font qu'un seul mouvement. Alors vous voyez, Jean Vanier s'opposait à ça, parce que ça, c'est empêcher de faire de l'ordre. C'est maintenir dans l'état de petitesse. C'est maintenir dans l'état d'imperfection. Vous ferez un seul mouvement, et vous resterez tout le temps là-dessus. Donc vous serez perpétuellement dépendant. Vous arriverez dans votre travail à réaliser ça peut-être parfaitement, ça c'est possible. Il n'y a aucune curiosité. La curiosité, ça nous fait regarder autre chose. Hein. Et donc, ça nous empêche d'être tout attentif à cet unique mouvement. Alors, il peut très bien se faire qu'au point de vue travail, faire un unique mouvement en dépendance de l'imitation fait que ce travail peut être parfait. Mais ce travail est moins humain. Le travail parfaitement humain, c'est lorsqu'il se rattache à une inspiration. Alors là, on est en face d'un travail parfaitement humain. Tandis qu'un travail qui est rattaché à l'imitation demeure dans l'état d'imperfection au point de vue travail humain. C'est toujours ce que nous devons rechercher, hein, au point de vue philosophique. Comment le travail est-il humain? Quels sont les facteurs qui font que le travail est humain? Et quels sont les facteurs qui font que le travail peut être parfait comme travail, mais n'est pas assez humain? Le travail pris en lui-même, regarde l'œuvre, regarde l'efficacité, le temps et la qualité de l'œuvre. Et uniquement ça. Tandis que s'il s'agit de regarder un travail humain, je dois regarder l'autonomie dans laquelle l'homme se trouve en travaillant. Si l'homme est totalement dépendant en travaillant, ce n'est pas humain. Ce travail pourra être efficace, pourra être parfait, mais il n'est pas entièrement humain. Il restera un travail parfait par rapport à l'œuvre. Donc au niveau du travail, il est parfait. Efficacité. Et en même temps, rapidité. Parce que ce sera toujours l'efficacité, la qualité de l'efficacité va impliquer le point de vue de la rapidité. Et va impliquer la qualité de l'œuvre. Remarquez qu'au point de vue de la qualité de l'œuvre, on peut discuter ça. Au point de vue de la rapidité de l'efficacité, ça peut très bien se faire. Et étant dans l'ordre de l'imitation, on arrive à quelque chose de beaucoup plus parfait. Et alors, en étant dans l'ordre de l'imitation, on maintient dans un état servile, dans un état de dépendance, donc dans un état qui fait que ce travail n'est pas pleinement humain. Tandis qu'au contraire, si le travail s'enracine dans une inspiration, alors à ce moment-là, il devient humain. Il devient parfaitement humain. Je crois que nous pouvons dire cela. faut y réfléchir. Si vous avez des objections, vous les écrirez. Parce que c'est intéressant de bien voir les deux stades du travail. Hein. Un travail dans lequel vous vous inscrivez uniquement dans l'ordre de l'exécution. Alors, c'est la perfection de l'exécution. Une exécution qui est coupée du reste. Et un travail dont on revient à la source. Donc, l'inspiration m'apparaît comme une source de connaissance d'un type tout à fait particulier qui permet au travail de trouver son autonomie, de trouver sa perfection humaine. Et l'inspiration m'apparaît donc comme la première source, le premier moment d'un type de connaissance qui est première d'ordre génétique, dans l'ordre génétique. Ça, je crois qu'on peut l'établir. Oui. Première connaissance humaine dans l'ordre génétique, c'est l'inspiration. Vraiment, l'intelligence s'éveille. Si vous voulez, le premier réveil de l'intelligence, ce serait plus juste de dire ça, le premier réveil de l'intelligence, où l'intelligence découvre son autonomie, où l'intelligence découvre parfaitement ce qu'elle est, le premier moment, génétiquement, pas au point de vue perfection. Au point de vue perfection, ce sera la connaissance métaphysique. Mais, et au point de vue perfection, ce sera la contemplation par la connaissance métaphysique. Mais le premier moment au plan génétique, c'est l'inspiration. Ça, c'est très important à comprendre, vous comprenez, parce que ce qui est premier dans l'ordre génétique conditionne tout le reste. Ce qui est premier dans l'ordre génétique, dès qu'il n'y a plus une vitalité suffisante, non seulement conditionne, mais détermine. Alors, ça explique des quantités de choses. Quand il n'y a plus une vitalité suffisante de l'intelligence, on va retomber sur la connaissance de l'inspiration. Non seulement comme première génétiquement, mais comme la connaissance absolue. Et l'homme se définira, la philosophie se définira par l'inspiration. On ramènera tout à ça. Et ceci, ça s'explique. Hein. Ça s'explique dès que vous comprenez que l'inspiration, c'est ce premier réveil de la connaissance humaine. Le premier type de la connaissance humaine. L'homme est premièrement, génétiquement, un inspiré. Vous voyez, c'est ce qu'on reconnaît aujourd'hui quand on voit les travaux d'enfants. Alors, on dit que dès qu'ils vont à l'école, l'inspiration est moins forte. Alors, l'école, c'est la tuerie d'inspiration. C'est le lieu où vraiment on tue l'inspiration. Pourquoi ? Parce qu'on vous téléguide. C'est pour ça que je dis que c'est si important au point de vue éducation. Très important de comprendre ça. Parce que dans l'école, on téléguide, on fait des exercices. Vous devez imiter. On vous fait toujours imiter à l'école. Hein. On vous apprend à lire, vous imitez quelqu'un. Vous dites A à la suite de, non pas du prophète, mais à la suite de quelqu'un, vous écrivez. On vous apprend toujours. C'est l'école qui est de l'imitation. On imite, au moins les premiers moments d'école. Alors à ce moment-là, ça empêche l'inspiration de se faire. Si la dose est trop grande d'imitation, l'inspiration ne peut plus. Mais réfléchissez actuellement dans votre vie, examen de conscience philosophique. Quel est le dosage d'imitation, quel est le dosage d'inspiration ?
au noviciat. Quel dosage d'imitation, quel dosage d'inspiration. On devrait y penser, mais il n'y pense pas beaucoup. Bien dit. Poser cette question à un bon père maître. Hein. J'ai plus de soupape de sûreté d'inspiration. Je suis obligé d'imiter tout le temps, tout le temps. Vous imitez, puis on continue d'imiter. Et quand vous demandez pourquoi on fait ça, on a toujours fait ça. L'imitation. On a toujours fait ça, l'imitation. Vous voyez, la tradition, l'imitation fait naître la tradition. Ça, c'est sûr. Mais la tradition dans son bas étage. Hein. Pas la tradition au sens profond. Il y a tradition et tradition. Il y a vraie et fausse tradition. Alors, l'imitation fait naître quelque chose qui... C'est là les ornières. C'est ça que j'appelle une ornière. On crée une ornière en imitant tout le temps. C'est très important de réfléchir sur le dosage des deux. Oui. On reste toujours dépendant. Psychologiquement, on reste dans l'état de dépendance. Si on reste en imitation. On peut travailler très très bien, on peut travailler avec force dans l'ordre de l'exécution. Mais ce n'est pas un vrai travail. Ce n'est pas un travail parfaitement humain. Le travail de la bête de somme, c'est le travail de l'instrument, c'est le travail de celui qui est éliminé. Alors, l'inspiration. Nous avons essayé de comprendre comment l'inspiration est un type de connaissance toujours reliée l'imaginaire. Grâce à l'inspiration, l'imaginaire est ennobli. J'allais presque dire que l'inspiration, c'est la première noblesse de l'imaginaire, par où l'imaginaire devient spirituel. C'est un ennoblissement de l'imaginaire. C'est l'intelligence à l'intérieur de l'imaginaire qui découle les possibles. Première source des possibles, c'est l'inspiration. Ça ne veut pas dire que toute philosophie du possible est une philosophie inspirée. On va encore se demander. Mais c'est très vrai, je crois qu'on doit affirmer que toute inspiration, elle regarde les possibles nouveaux repris à l'intérieur de l'imaginaire illuminé par l'intelligence. L'imaginaire illuminé par l'intelligence me donne des possibles. Des possibles dans l'ordre de la réalisation. Ce n'est pas n'importe quel possible, c'est pour ça que la différence est le possible philosophique, hein, le possible métaphysique. Le possible logique. Il faut bien distinguer. Hein. Le possible n'est pas toujours le même possible. Ici, il s'agit d'un possible à réaliser. Il s'agit donc d'un projet. Le projet, c'est le possible réalisable. L'inspiration est source de possible. Elle me donne ses possibles, ses divers possibles. Et ceci, grâce à l'alliance très fondamentale de l'intelligence, je ne dis pas la raison, hein, de l'intelligence liée à l'imaginaire. L'intelligence éclairant l'imaginaire et demeurant dans l'imaginaire. Parce que l'intelligence peut se servir de l'imaginaire et arriver à l'abstraction. Et l'intelligence peut demeurer dans l'imaginaire et alors découvrir le possible. Le possible n'est pas du tout abstrait. Le projet, il est abstrait parce qu'il n'existe pas et qu'il pourrait exister et qu'il pourrait se réaliser, mais il n'est pas abstrait comme l'abstraction habituelle. Il est quelque chose qui est une cause exemplaire. La cause exemplaire n'est jamais abstraite. C'est la cause exemplaire, le projet. Et le possible est cause exemplaire. Donc, il possède quelque chose de premier, ce possible qui naît à partir de l'inspiration, qui naît dans l'inspiration, qui naît dans l'imaginaire. Le possible est toujours enveloppé d'imaginaire. Toujours, il naît dedans. Il naît de l'intelligence et de l'imaginaire. Et j'allais dire, l'imaginaire est sa mère. Et l'intelligence est son père. Si j'ose dire, tu vois. Et c'est vrai, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça dans le possible projet. Il y a différentes modalités. Il y a un possible beaucoup plus imaginaire, beaucoup plus enveloppé d'imaginaire. C'est encore fou. C'est pas très précis. C'est du possible pourtant, mais c'est très lié à l'imaginaire. Et puis il y a des possibles beaucoup plus nets, beaucoup plus précis, beaucoup plus structurés. Mais ça reste encore du possible. Et alors ça, c'est l'intelligence. Mais on pourrait dire l'art classique et l'art romantique. Il y a deux inspirations totalement différentes. L'inspiration qui va commander une activité artistique et une œuvre qu'on dit classique, c'est beaucoup plus précis. Tandis qu'au contraire, une œuvre qui provient d'une inspiration qui est beaucoup plus liée à l'imaginaire, qui reste beaucoup plus en imaginaire, restera beaucoup moins déterminée. Et on trouvera que c'est beaucoup plus beau, selon certains goûts. Il y a des gens qui ont horreur du déterminé. Il y a des gens qui ont horreur de l'indéterminé. De quelle raison, hein? Au point de vue artistique, les deux existent. Et les deux peuvent être beaux. Mais de deux types de beauté très très différentes. Mais les deux peuvent être beaux. Il ne faut pas dire simplement que c'est celui qui est parfaitement déterminé qui est beau. Non. Il y a des beautés de fond de camp. On voit très bien. Il y a des beautés qui laissent comme ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui d'un autre. Alors là, on voit très bien que l'imaginaire est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Vous avez donc à l'intérieur du possible, de ce possible qui naît d'inspiration, des quantités de modalités. Ça, c'est ça qui est extraordinaire dans ce domaine de l'inspiration. Donc, nous avions vu que c'est possible. Nous avions vu aussi, et je le souligne de nouveau, que ce possible est le fruit d'une connaissance symbolique. Donc, la connaissance humaine naît dans le symbole. C'est extraordinaire de voir ça. Elle naît dans le symbole. C'est vrai, je crois que la connaissance humaine est d'abord symbolique. Ce qui fait que le langage humain est d'abord symbolique. Il faut du temps avant que le langage se précise et devienne un logos scientifique au-delà du domaine symbolique. Parce qu'au début, il est symbolique. Il est très lié à l'imaginaire. Mais il possède quelque chose aussi, la signification. Et c'est là où nous avions essayé d'analyser qu'est-ce que c'est qu'une connaissance symbolique. Qu'est-ce que c'est que cette connaissance symbolique dont le produit n'est pas un concept au sens absolu? Dont le produit, c'est justement le produit d'une connaissance symbolique, ce sera un symbole. D'ordre intentionnel, c'est sûr, c'est de l'ordre intentionnel ça. C'est pas de l'ordre du réel, c'est porté dans mon intelligence source d'inspiration. Alors, nous avions vu les trois éléments, si vous vous rappelez bien, de toute connaissance symbolique. Toute connaissance symbolique implique une représentation, ça c'est le point de vue imaginaire, une signification, c'est le point de vue de l'intelligence, et un secret, quelque chose d'énigmatique, c'est l'élément affectif. Toute connaissance symbolique va impliquer les trois. Parce qu'au fond, cette connaissance de l'inspiration est une connaissance qui implique l'intelligence, qui implique l'imaginaire et qui implique la capacité. Je crois qu'il n'y a pas d'inspiration sans un certain amour, sans une certaine affectivité. Et c'est pour ça, dans toute connaissance symbolique de l'inspiration, vous retrouverez ces trois éléments. L'élément de représentation, ça c'est bien évident. Tout symbole, toute connaissance symbolique implique un aspect de représentation. Toute connaissance symbolique implique une signification et elle est énigmatique. Plus ou moins, l'élément affectif étant plus ou moins, comme chacun de ces éléments du reste, joue plus ou moins. Une connaissance symbolique religieuse. Je n'ai pas encore dit ça. Hein? Parce que nous avions vu que l'activité de réalisation, qui implique le point de vue d'inspiration, n'est pas immédiatement reliée à l'appétit religieux, elle avait dit. Ça, c'est un très gros problème de savoir si l'inspiration poétique, dans ce qu'elle a de premier, implique un aspect religieux. Certains ont soutenu que toute inspiration implique un enracinement religieux. On le comprend par l'élément affectif de cet appétit naturel premier qui peut progressivement devenir conscient et jouer un rôle dans l'inspiration. Mais très difficile, il ne faut pas trop vite conclure. Il faut simplement se poser le point de problème, le point d'interrogation. Est-ce que la connaissance symbolique est premièrement religieuse? Si la connaissance symbolique est premièrement religieuse, l'élément affectif jouera un rôle très important. Les symboles religieux sont toujours beaucoup plus énigmatiques que les autres symboles. L'élément du secret, l'élément de l'arcane, joue un rôle beaucoup plus important. Et alors, c'est cette connaissance affective qui enveloppe la connaissance symbolique et qui la relie à tout l'aspect affectif. Et donc l'aspect affectif, dans ce qu'il a de fondamental, religieux. Ça explique comment certains prétendent que le premier art qui est né, c'était un art religieux. C'est un peu la position de Pierre Desfontaines. Je sais bien qu'il y a des positions radicalement opposées. Toutes les positions marxistes d'aujourd'hui sont radicalement opposées à celles-là. Mais entre ces deux extrêmes, on peut peut-être essayer de comprendre. La position de Pierre Desfontaines, c'est de voir que tout art est né. Même l'invention de l'art est religieux. Voyez, le grand mythe de Prométhée. Parce que la première chose, l'art est lié au feu. Alors, le feu, il y a quelque chose qui dépasse le point de vue des hommes, qui n'est pas, et alors qui fait l'annexion du feu, va permettre de comprendre comment l'art doit se développer au point de vue religieux. Bon, c'est une question, ça, c'est une question intéressante, parce que c'est toujours l'aspect génétique de la connaissance symbolique. Est-ce que la connaissance symbolique est-elle premièrement religieuse? Ou est-ce que la connaissance symbolique n'est pas premièrement religieuse? Elle est premièrement dans l'ordre de l'utilité, vous voyez. Si l'art n'est pas vraiment symbolique, il est d'abord pour les besoins de l'homme. Ou alors, est-ce qu'elle est d'abord symbolique religieux, pour les besoins de l'homme étant premièrement religieux, s'allier les bonnes grâces des dieux, n'est-ce pas ? Reconnaître la dépendance à l'égard des dieux, tout le point de vue liturgique étant premier, fondamental. C'est évidemment, si ceci est vrai, voyez combien la liturgie est quelque chose de fondamental dans l'homme. Et si ceci est vrai, c'est quand même très intéressant à essayer de voir. Je dis religieux, hein, je ne parle pas de chrétien, je ne parle pas de l'inspiration chrétienne, je parle tout simplement du point de vue religieux. C'est quelque chose qui est enraciné très profondément dans le cœur de l'homme et qui fait que le symbole est premièrement religieux. On doit au moins se poser la question, hein, sans trop vite régler ces questions-là. Parce que ce sont des questions qui sont très actuelles et très difficiles à traiter. La question du symbole, de la connaissance symbolique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, mais très difficile, complexe. Ce que je crois très très vrai, c'est que la connaissance symbolique est la première connaissance de l'homme, génétiquement parlant.
Alors, est-ce que ce génétiquement parlant est d'abord religieux, parce qu'il y a cet appétit naturel religieux? Ça ne m'étonnerait pas, moi, personnellement. Ça ne m'étonnerait pas que, génétiquement, l'homme est premièrement un animal religieux. Qu'il y a quelque chose qui reste très très profond. Bon, cette connaissance donc symbolique va se réaliser dans l'idéa. Elle se précise dans ce qu'on appelle l'idéa, c'est-à-dire le projet, l'idée, quand j'ai une idée pour réaliser quelque chose. Subitement, j'ai réfléchi beaucoup, je n'ai pas vu, et puis tout d'un coup, ah tiens, on pourrait faire ça. On pourrait arranger ça de cette manière. Je n'avais pas pensé. Mais tout est là, prêt. Alors, vous voyez, vous avez l'idéa. L'idéa qui naît et qui est toujours symbolique. Vous avez là, donc, un type de connaissance particulier, cette connaissance symbolique. Nous passons de l'inspiration au choix créateur. Continuons ça la fois prochaine. Et vous me direz si vous avez des questions là-dessus.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,